Bonsoir, bienvenidos y bienvenidas sur Radio Campus Paris pour ce nouvel épisode de Semillas Latinas, l'émission qui explore chaque mois un pays d'Amérique latine d'un point de vue culturel et politique.
Semillas Latinas, une émission de Radio Campus Paris, un samedi soir par mois à 20h sur le 93.9 FM.
Ce soir, c'est Anaëlle Michel et Pauline Rossano à la présentation, et c'est précisément sur le lien entre les arts et la politique que va porter cet épisode dédié à Cuba.
Cet état insulaire des Caraïbes où effervescence culturelle rime avec crise structurelle, où la profusion créatrice défie la répression politique et où le chemin de l'exil complexifie encore plus le regard porté sur l'île.
Pour comprendre la situation actuelle, c'est-à-dire un contexte de dictature, de censure, de pauvreté et d'exode, qui contraste naturellement avec le pouvoir de fascination qu'exerce encore Cuba dans nos imaginaires, revenons 60 ans en arrière.
Lorsqu'en 1959, les guérilleros menés par Fidel Castro et Ernesto Che Guevara renversent le régime de Batista, qui était gangréné par la corruption et la mafia et assujetti au contrôle économique et politique des États-Unis. C'est une nouvelle aube pour le pays. Cuba se transforme radicalement grâce à des politiques sociales populaires et ambitieuses, la réforme agraire, la nationalisation des entreprises, la garantie par l'État de l'accès à l'eau, à l'alimentation de base, à l'électricité et au transport à des prix modestes, la gratuité de la santé, mais aussi l'emploi et les retraites assurées pour tous et toutes.
Et le sujet qui nous intéresse ce soir, la culture, l'éducation et les arts, deviennent une priorité. L'ère castriste met en place un programme socialiste radical, comme tu l'as dit Anaëlle, mais aussi des politiques culturelles extrêmement progressistes. Cuba est historiquement une terre de métissage et du bouillonnement culturel. Au XXe siècle, d'éminentes figures émergent au sein de la population cubaine dans toutes les formes d'art.
Cependant, au début des années 50, seulement 45% des enfants en âge d'aller à l'école sont scolarisés et un quart des habitants et habitantes de l'île sont illettrés. Après l'avènement du régime révolutionnaire, on abolit les privilèges et l'accent est mis sur la démocratisation de la culture et de l'éducation.
Une campagne d'alphabétisation massive est lancée et le gouvernement décrète la gratuité des écoles, des musées, des concerts et des spectacles. Mais ce n'est pas tout. Des talents sont dénichés et formés à travers toute l'île et tous les milieux sociaux et les carrières artistiques sont soutenus par des politiques publiques ambitieuses.
Et ce, afin de mettre en œuvre la maxime « Être cultivé est l'unique façon d'être libre » de José Martí, fondateur du Parti révolutionnaire cubain et héros de la guerre d'indépendance de Cuba à la fin du 19e siècle. Et tout ça permet de comprendre la richesse des apports cubains dans la musique, les arts visuels ou encore le spectacle vivant.
Pourtant, cette harmonie entre politique et art semble trop belle pour durer.
Et oui Pauline, car qui dit financement dit aussi contrôle sur la production, surtout dans un régime de plus en plus autoritaire. Et puis, dans les années 1990, l'île communiste traverse une crise sans précédent en raison de la chute de l'Union soviétique qui entraîne un arrêt brutal de l'aide financière que l'URSS fournissait à Cuba.
D'autant plus que le pays vit sous perfusion soviétique, parce qu'à partir de 1962, l'embargo des États-Unis l'a rendu ultra dépendant de Moscou. Dans ce contexte, un mouvement artistique et intellectuel plus critique à l'égard du pouvoir émerge.
Et depuis, l'idéal politique incarné pendant 50 ans par le leader Máximo Fidel Castro, puis par son frère Raúl, président de 2006 à 2018, a du plomb dans l'aile. L'île est aujourd'hui encore confrontée à des sanctions des États-Unis, à des pénuries, à des coupures d'électricité et à une pauvreté massive, ainsi qu'à des contestations du régime dictatorial qui sévit encore sous la présidence de Miguel Díaz-Canel depuis 2019. Malgré la relative libéralisation du régime, marquée par une réforme monétaire et l'ouverture de l'économie au tourisme et de certains secteurs au privé, Cuba s'enfonce dans une crise très grave depuis la pandémie du coronavirus.
Quant aux manifestations pour dénoncer ces conditions de vie, ou les atteintes de plus en plus grandes à la liberté créatrice, elles sont violemment réprimées. En 2018, puis en 2021, les voix dissidentes sont étouffées et parfois emprisonnées.
Et pourtant, elles demeurent vives, nombreuses et puissantes. Les événements culturels, les manifestations artistiques et intellectuelles et diverses formes d'expression continuent de scander la vie des Cubains et des Cubaines au sein de l'île et en diaspora.
Et pour vous plonger dans la culture cubaine et analyser ses rapports complexes avec la politique, on vous a concocté un programme incroyable.
Pour commencer, Colline Perron, doctorante en histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg, en codirection avec Paris Nanterre et rattachée au centre Marc Bloch, va esquisser un panorama des politiques culturelles menées à Cuba entre la Révolution et la fin du XXe siècle.
Ensuite, pour faire le pont avec le présent, Manon Mézia et Paloma Petrich vont aborder la répression des artistes universitaires et journalistes du mouvement San Isidro, formé en 2018 pour protester contre la censure.
Ce sera le moment pour Sylvie Argibet de nous parler du contexte sociopolitique actuel à Cuba avec son invitée Jeannette Abel, politologue, chercheuse associée à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, spécialiste du pays.
Mais ce n'est pas tout. Une riche palette de chroniques va nous permettre d'approfondir certains sujets. D'abord, j'aurai le plaisir de partager avec vous une chronique sur le cinéma avec un focus sur l'œuvre d'une cinéaste, Sara Gomez.
Enfin, nous conclurons cet épisode par un double hommage à la musique cubaine grâce à Michael Adar Giraldo qui reviendra aux sources de la musique afro-cubaine et puis Astrée Toupiol qui nous parlera de ce qu'est être un musicien ou une musicienne à Cuba actuellement en pleine crise.
On espère que vous avez aussi hâte que nous. Belle soirée sur Radio Campus Paris.
Et pour commencer cet épisode qui s'annonce passionnant, un petit récap historique s'impose. Pour ce faire, on a la chance d'être avec Colline Perron, venue au micro de Semillas Latinas pour nous parler des liens entre les arts et la politique à Cuba dans la deuxième moitié du XXe siècle. Bonsoir Colline.
Bonsoir Anaël.
Colline, ta thèse porte sur les relations artistiques entre Cuba, la République démocratique allemande et deux pays socialistes africains, l'Éthiopie et le Mozambique, de 1959 à 1990. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le tournant qu'ont constitué les politiques culturelles des premières années du régime issu de la révolution cubaine ?
Alors, pour comprendre l'importance de la culture à Cuba, il faut rappeler qu'avant même la révolution, Cuba est une terre de métissage et de brassage. Elle est caractérisée par une culture très dynamique, marquée par un mélange entre notamment une influence catholique espagnole et la culture et la religion yoruba, introduite sur l'île par les esclaves originaires d'Afrique de l'Ouest qui ont été déportés à Cuba pendant la colonisation espagnole pour y travailler dans les plantations de canne à sucre. Avant même la Révolution, donc il y a beaucoup de grands artistes cubains, toutes disciplines confondues, par exemple la célèbre danseuse de ballet Alicia Alonso et le peintre Wilfredo Lam, pour n'en citer vraiment que quelques-uns. Il y a également des liens très forts avec les États-Unis et l'Europe au niveau de la formation des artistes. Il y a donc un fort potentiel culturel, qui est surtout réservé à une élite avec des fortes inégalités au sein de la population. Il y a notamment un taux d'analphabétisme qui est très important. Compte tenu de cet héritage donc colonial, donc la colonisation espagnole, puis néocoloniale de l'île, avec le régime notamment de Batista sous influence états-unienne, à l'avènement de la Révolution en janvier 1959, la nation cubaine reste en partie à construire, et le domaine culturel est investi par les révolutionnaires qui veulent rendre la culture accessible à tous et combler le gouffre entre l'élite intellectuelle aisée et une population marquée par un fort taux d'analphabétisme. Les révolutionnaires considèrent que c'est la culture qui va rendre possible la véritable indépendance et permettre d'atteindre les objectifs sociopolitiques du régime. Il y a donc un véritable feu d'artifice de création d'institutions culturelles et les premières années de la Révolution sont généralement décrites comme un moment d'effervescence créatrice. En 1959, l'année même de la Révolution, on a la création notamment de l'ICAIC, l'Institut cubain d'art et d'industrie cinématographique, de l'Imprimerie nationale et de la Casa de las Américas, une institution culturelle majeure dont la première directrice est la guerrillera Aide Santa Maria, qui donc déploie des liens donc littéraires et artistiques avec les pays d'Amérique latine. En 1961 est ensuite créé le Conseil national de la culture, donc une instance davantage organisatrice, et l'Union nationale des écrivains et artistes de Cuba, ou UNEAC. Il y a également une volonté de revaloriser l'héritage africain de Cuba avec la création en 1962 de l'ensemble folklorique national qui va tenter de mettre en valeur les danses africaines.
Et du coup, pour tenter de mieux comprendre le sens de toutes ces initiatives culturelles, je voulais te demander comment on pourrait définir les orientations politiques de Cuba dans ces années-là.
C'est une très bonne question. À l'origine, les courants qui traversent la révolution cubaine sont très divers. Il y a des courants nationalistes, anti-impérialistes, socialistes, communistes, mais aussi anticommunistes. Ce n'est pas dans l'intérêt de Cuba de se couper des États-Unis, avec lesquels, je rappelle, que les liens économiques et culturels sont très forts. Le rapprochement de Cuba avec l'URSS n'a donc pas été immédiat et il a eu lieu pour des raisons majoritairement opportunistes. Cuba, notamment avec le début de l'embargo états-unien en 1962, avait besoin de débouchés pour son sucre et également besoin de la protection du grand frère soviétique en raison de la proximité géographique avec les États-Unis, qui avaient notamment organisé une tentative de débarquement à la baie des Cochons en 1961. Donc Cuba essaye par ailleurs de se positionner au sein de ce qui à l'époque appelait le tiers-monde. En 1966, la Conférence de la solidarité des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, plus connue sous le nom de Conférence tricontinentale, est organisée à La Havane. L'URSS et les pays socialistes européens n'y sont conviés que comme observateurs. Cuba manifeste donc sa volonté de tracer sa propre voie révolutionnaire. Concernant la politique culturelle, un discours particulièrement important de Fidel Castro sont les célèbres « Paroles aux intellectuels » qu'il prononce en 1961.
« Compañeros y compañeras. »
Ce discours, il n'a pas de véritable dimension programmatique et il est finalement assez flou, mais il peut être analysé comme un avant-goût de la volonté du régime de subordonner la sphère artistique aux objectifs de la révolution.
« Es decir que el campo de la buba no queda ya para los escritores y artistas verdaderamente revolucionarios. »
Il y prononce donc ces paroles célèbres « Dans la révolution, tout, contre la révolution, rien ». Ensuite, Anaëlle, tu en as parlé dans l'édito, mais donc un des gros enjeux pour le pouvoir, c'est l'alphabétisation de la population. La campagne d'alphabétisation va être un succès, et les réussites dans le domaine donc, de l'éducation et de l'accès aux études supérieures donc, pour tous va être une des plus grandes fiertés du régime cubain. Au cœur de la politique culturelle révolutionnaire, il y a aussi la volonté de créer de nouveaux publics. Alors que le cinéma était une forme artistique qui était très peu développée à Cuba avant la Révolution, le régime initie en 1962 des campagnes d'alphabétisation cinématographique avec le lancement du cinéma mobile qui permet d'amener le cinéma dans les régions reculées de l'île. Les coûts d'entrée au cinéma ou au musée sont également très bas ou même gratuits.
Donc ces politiques sont très favorables à la création artistique et à la diffusion des arts.
C'est là que ça se complique, c'est que malgré cette espèce de lune de miel entre les artistes et le régime, lors des premières années donc, qui suivent la révolution, des tensions commencent à se faire sentir, liées à la volonté du régime de reprendre le contrôle sur la scène artistique et d'utiliser la culture dans une volonté de propagande. La création en 1965 du Parti communiste cubain, qui devient un parti unique, conduit déjà certains artistes à s'exiler. Dans les années 1970 a ensuite lieu ce qui a pu être qualifié de période d'institutionnalisation ou de soviétisation du régime cubain. La mort d'Ernesto Che Guevara en 1967 contribue donc à délégitimer la stratégie d'exportation de la révolution cubaine via la lutte armée, et l'échec de la récolte de sucre en 1970 à Cuba montre que l'île n'est pas en mesure de maintenir un développement économique autonome. S'ouvre alors une période de dépendance idéologique et économique accrue envers l'URSS. Dans le domaine culturel, cela se traduit par ce qu'on appelle le quinquennio gris, le quinquennat gris. Donc la censure se renforce avec notamment une répression accrue de l'abstraction et un rapprochement avec le modèle du réalisme socialiste promu par l'Union soviétique. Cette période est également caractérisée par l'ostracisme des membres de la communauté LGBT et de nombreux artistes choisissent de nouveau l'exil. Donc malgré cela, dans les années 1970-1980, la politique culturelle cubaine est toujours dynamique. Les années 1970 sont par ailleurs souvent qualifiées de décennies africaines de Cuba, qui s'engagent sur le continent africain de manière accrue, sur le plan donc militaire, mais également donc culturel et éducatif. Des brigades culturelles sont envoyées en Afrique, et donc dans les années 70-80, des milliers de jeunes Africains, originaires notamment d'Éthiopie, d'Angola et du Mozambique, sont scolarisés sur l'île de la jeunesse à Cuba. En 1983 est créé le centre Wilfredo Lam, dont le nom rend hommage à un célèbre artiste cubain d'origine chinoise par son père et afro-cubaine par sa mère, et ce centre a pour mission d'organiser la promotion de l'art contemporain, donc d'artistes originaires d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. Il organise un des événements les plus importants de la région, la Biennale de la Havane. La première édition a lieu en 1984, et l'art cubain se confronte à l'art international, avec donc une ouverture à un art parfois jugé transgressif. Mais en 1989 se produit la dissolution donc, du camp socialiste en Europe de l'Est, le démembrement de l'Union soviétique et donc l'arrêt brutal de l'aide financière que cet État fournissait à Cuba. C'est ce qu'on appelle alors donc, le début de la période spéciale, donc une crise qui va heurter le pays de plein fouet et Cuba qui doit redessiner son modèle économique. Dans ce contexte naît un mouvement donc, artistique également plus critique en termes idéologiques et sociaux. et donc des divergences et contradictions apparaissent ou se renforcent entre le pouvoir et les artistes. Donc j'en ai désormais terminé avec mon panorama de la deuxième moitié du XXe siècle. Et donc vous allez voir que de manière récente, donc les tensions entre le gouvernement et les artistes, qui étaient donc déjà présentes pendant la Révolution et pendant la période spéciale, vont continuer à s'accentuer. Mais Paloma et Manon vous en parleront plus en détail.
Bah, merci infiniment Colline pour tous ces éléments hyper riches et éclairants. Pour en savoir plus et lire des témoignages d'une trentaine d'artistes cubains et cubaines contemporains, on vous recommande le magnifique livre dirigé par Gilbert Brownstone, L'art à Cuba, paru en 2019 chez Flammarion. Et merci encore Colline de ta venue ici.
De rien, merci à toi Anaëlle.
Et maintenant, Manon et Paloma, vous allez nous parler d'un mouvement d'artistes dont la création révèle bien l'état de la liberté d'expression et de création à Cuba.
La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe.
Che Guevara.
Il surveille tout le monde, même les artistes.
Je suis une artiste. Et toi, t'es quoi?
Je suis entré au service de l'État et lui a préféré devenir artiste.
Peut-être que c'est lui qui a eu raison.
Et moi, en tant qu'artiste, tu t'étonnes que je refuse ce système?
Il n'y a pas longtemps, j'ai été voir une pièce de théâtre qui s'appelait « L'esthétique de la résistance » et qui abordait cette question hyper essentielle de ce que peut et de ce que doit ou pas faire l'art pour la résistance politique. La pièce, en se penchant sur le cas de la résistance communiste allemande au nazisme, pose cette question plus globale. Est-ce que pour une cause, une utopie, telle qu'ont été la révolution bolchévique ou cubaine à un moment donné, c'est légitime de taire une partie des critiques afin de maintenir l'unité ?
Bah justement, en parlant de la révolution cubaine, c'est vrai que quand on pense à Cuba, on pense à Che Guevara, à la liberté, aux idéaux de gauche. Mais l'activisme à Cuba, c'est pas si aisé, si commun, ni historique ou ancré. Et c'est ce que nous montre la création du mouvement San Isidro.
Le mouvement San Isidro, comme ce vieux quartier de La Havane où cohabitent touristes et bâtiments tombant en ruine dans le charme typiquement cubain que les touristes trouvent si stylé, c'est ça ?
Exactement. Le Movimiento San Isidro, c'est un collectif inédit d'artistes, de journalistes, d'universitaires cubains et cubaines, toutes et tous unis autour d'un mot d'ordre, la liberté d'expression. Et ce qui est marquant, c'est la diversité des figures qui le composent, de Luis Manuel Otero Alcantara, un jeune plasticien afro-cubain, à Tania Bruguera, figure internationale de l'artivisme.
Oui, ce sont des artivistes variés et ils ne remettent pas en cause l'idéologie de la révolution cubaine, mais ils souhaitent tous te la réanimer par le dialogue, le pluralisme et l'autonomie de la société civile. Et tout ça de manière relativement pacifique. Ils organisent des grèves de la faim, des sit-ins, des performances dans l'espace public et même une biennale d'art alternative quand l'État reporte la sienne.
Et ils ont même lancé une plateforme nommée Patria y Vida pour initier un grand dialogue national avec le gouvernement. Ils ont aussi réalisé des performances plus symboliques et originales, comme le rappeur Micaelo Sorbo, qui vivait littéralement avec un drapeau cubain sur le dos, au lit, aux toilettes, sur la plage, une manière de dire « je suis patriote, mais ça ne m'empêche pas de vouloir changer les choses et je vous regarde ».
Et ce qui est inédit aussi, c'est qu'ils se revendiquent artivistes. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'art non seulement pour créer, mais aussi pour résister, dénoncer et proposer des alternatives sociétales. Et leur engagement, il s'affirme clairement à partir de 2018, en réaction au décret 349. Et ce décret, c'est pas le 49-3, mais presque. C'est un des tout premiers promulgués par le président Miguel Díaz-Canel à la suite de son élection. Il impose que toute expression artistique soit préalablement approuvée par les institutions officielles. Il détaille une liste de restrictions assez floues, qui va de langage vulgaire à atteinte aux valeurs de la révolution ou mauvaise utilisation de symboles nationaux. Et d'ailleurs, Micaelo Sorbo et son drapeau dont on parlait plus tôt a justement été emprisonné pour ça, comme tant d'autres membres du MSI, quand ils ne se sont pas exilés. En clair, l'État décide de ce qui est de l'art et de ce qui ne l'est pas. Ce n'est plus seulement de la censure, c'est une criminalisation des artistes qui échappe à la ligne officielle. L'art doit être validé avant même d'exister. Donc les rappeurs David Domni, Raudel Colazzo et le rocker Gorky dénoncent cette répression des artistes dans leur chanson « No al decreto 349 » qui accompagne souvent les manifestations.
Tu censura está en clausura de conciertos que tumbaste, siempre estuvo ahí, solo la legalizaste. Nos acusas entonces de politizar el arte. Dime qué hiciste tú cuando lo colocaste en la constitución con sanciones al artista. Basta ya de represión, sigue creciendo la lista.
Et ce décret, il ne sort pas de nulle part. Il s'inscrit dans une longue histoire de contrôle de l'art à Cuba. Car si le gouvernement socialiste a permis l'accès à la culture, en ouvrant les musées ou les cinémas et en les rendant gratuits, il l'a fait en gardant le contrôle. Et dès 1961, Fidel Castro posait les bases dans son discours « Palabras a los intelectuales » dans la révolution « Tout, contre la révolution, rien ». Et cette ligne a régi la vie culturelle pendant des décennies, pas de création hors du cadre et surtout pas de remise en question du récit national. On peut prendre cet exemple marquant, celui de l'agence de rap créée en 2002 par le gouvernement. Le rap et le hip-hop, une vraie culture clandestine et dissidente dans laquelle toute une nouvelle génération s'identifiait, a été repris ici par l'État et donc dépolitisé et vidé de sa substance subversive.
Donc pour ces artistes du mouvement San Isidro, défendre l'art, c'est aussi défendre la possibilité d'un pays vivant, c'est-à-dire qui évolue encore. La chanson Patria y Vida, devenue hymne du mouvement, et que vous pourrez écouter à la suite de cette chronique, détourne le slogan historique Patria o Muerte, la patrie ou la mort. Il dit au contraire, la patrie et la vie, parce que vivre, c'est aussi pouvoir créer, critiquer, questionner. Et ce cri se transforme en rassemblement. Le 27 novembre 2020, des centaines de Cubains et Cubaines se sont réunis devant le ministère de la Culture et s'est alors créé un deuxième mouvement d'artivistes, le 27N.
Finalement, ce que nous rappelle le mouvement San Isidro, c'est qu'aucune utopie ne survit sans contre-pouvoir. Même une révolution née d'un élan populaire a besoin d'être questionnée. L'art dérange parce qu'il désacralise, il rit, il détourne, il bouscule. Et un pouvoir qui ne supporte pas l'ironie finit par se figer. San Isidro nous le dit avec force, vouloir vivre, penser, créer, ce n'est pas trahir un idéal, c'est peut-être la seule façon de le sauver.
Merci Paloma et Manon pour cette chronique importante. Et comme vous l'annonciez tout de suite, c'est Patria y Vida de 6 artistes afro-cubains dont le clip, vu 15 millions de fois, en a fait un incontournable chant de révolte contre les résultats de 60 ans de gouvernance communiste à Cuba.
Eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mi solar, para demostrarte de qué sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2. 60 años, trancada al dominó. Mambo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó,
tu 5-9, doble 2.
Ya se acabó,
60 años, trancada el dominó, mira.
Se acabó, tu 5-9, doble 2. Ya se acabó, 60 años, trancada el dominó.
Somos artistas, somos la historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentiras, pues no piden libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos. Lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que es Cuba de usted? Si mi Cuba es de toda mi gente.
Se acabó.
Ya se venció tu tiempo. Se rompió el silencio.
Ya se acabó.
Ya se acabó la...
C'était Patria y Vida d'un collectif d'artistes cubains révoltés et vous écoutez toujours Semillas Latinas. On poursuit notre enquête sur la crise dans laquelle Cuba est plongée avec une interview menée par Sylvie Argibay.
Bonsoir Pauline. Depuis 5 ans, Cuba traverse une crise sans précédent depuis la chute de l'URSS en 1991. Les habitants et habitantes subissent des pénuries alimentaires et des coupures de courant à répétition. L'île est durement affectée par une crise multifactorielle liée à l'embargo états-unien et la pandémie de Covid-19 qui a fait chuter le tourisme. Une réforme monétaire engagée par le régime castriste a également entraîné une forte inflation. Et pour en parler ce soir, nous recevons au micro de Semillas Latina Jeannette Abel. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes politologue et chercheuse associée à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine et vos travaux de recherche portent essentiellement sur Cuba. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez revenir sur les causes de cette crise ?
Alors oui, c'est une crise multifactorielle, c'est une crise extrêmement grave. C'est depuis 1959 la crise la plus grave que l'île traverse. Il y avait déjà eu une crise très très grave dans les années 90, après l'effondrement de l'Union soviétique. J'étais présente moi, à Cuba à ce moment-là, mais la crise actuelle est plus grave. Alors multifactorielle, il y a au moins trois raisons en fait, il y en a beaucoup plus que ça. Mais la première, c'est que les sanctions américaines, les sanctions économiques et commerciales et financières s'exercent sur cette petite île hein, qui est perdue au milieu des Caraïbes, 10 millions d'habitants, et ça fait 6 décennies que ça dure. Donc la première chose qu'on doit dire quand on parle de la crise à Cuba, c'est qu'on doit rappeler que la première puissance du monde, l'hyperpuissance, comme disait Hubert Védrine, exerce un embargo, des sanctions extrêmement graves depuis 60 ans. Et il n'y a aucun pays sur la planète qui ne subit des sanctions de cet ordre. Il faut rappeler qu'il ne dispose que de très peu de ressources, finalement. Il y a des minerais, il y a du nickel, mais enfin, il n'y a pas, à part le tabac, le café, quelques autres choses comme ça, c'est un pays pauvre. Donc, c'est la première des choses, et je tiens toujours à commencer par là. Après, la deuxième raison, c'est aussi, évidemment, que la politique économique, la politique tout court, d'ailleurs, du gouvernement, alors, à l'époque de Fidel Castro, qui est mort en 2016, prolongé par son frère Raúl Castro. Il y a eu beaucoup d'erreurs commises en matière de politique économique. Et ces erreurs de politique économique sont évidemment également responsables de la crise actuelle. La troisième cause, elle est la conception du pouvoir qui a été appliquée et qui a donné lieu à un système politique, un régime politique, peut-on dire, qui est marqué par l'autoritarisme dans un pays en guerre, hein, quand même, enfin d'une certaine façon, en guerre au sens strict du terme, les premières années, la première décennie, et en guerre économique depuis. Mais un système, un régime autoritaire, et qui a appliqué du point de vue institutionnel et du point de vue économique des normes, des conceptions qui étaient très inspiré de l'Union soviétique. Je ne dis pas copié, parce que la révolution cubaine, c'est une révolution authentique, populaire, qui ne doit rien à l'armée rouge, mais qui s'est appuyée sur l'URSS, à l'époque où l'URSS existait encore, pour construire un système à la fois de résistance aux agressions, mais un système de parti unique qui a été, qui est responsable de beaucoup d'éléments de la crise et de sa gravité aujourd'hui. Enfin, dernier élément, il y en a bien d'autres, mais important, c'est le changement générationnel. Moi, je fais moi-même l'expérience, parce que parfois, quand je parle de Cuba et de la Cuba que j'ai connue, j'ai l'impression de parler de la préhistoire. Bon, alors, je ne sais pas si ça vous fait cet effet-là. Bon. Donc, en tout cas, le changement générationnel, c'est une donnée même sociopolitique. Hein. C'est quelque chose, dans tous les systèmes d'ailleurs, il y a un moment donné où il y a une bascule qui s'effectue du point de vue des modes de radicalisation, de la compréhension. Vous vivez ça, je suis sûre, aujourd'hui, tous les jours. Et donc, le changement de génération à Cuba a une importance particulière parce que d'abord, ça en fait 4 ou 5 générations hein, depuis la victoire de la Révolution, depuis 1959. Et avant 1959, il y avait une dictature terrible à Cuba, la dictature du général Batista. Et la victoire de la révolution cubaine contrairement à ce qu'on raconte souvent dans les livres, puis après je vais m'arrêter, c'est une victoire qui a été extrêmement populaire, extrêmement large contre cette dictature. Mais les générations actuelles, aujourd'hui, en 2025, elles n'ont aucune idée, elles n'ont jamais vécu cette dictature, et elles n'ont jamais vécu d'ailleurs non plus une situation comparable à celle qui existait sous Batista. Il y avait 25% d'analphabètes, enfin, je veux pas, il y a un niveau de vie dans les campagnes épouvantables. Aujourd'hui, tout ça n'a rien à voir. Les nouvelles générations ne se connaissent pas, ou connaissent mal, et on leur a mal enseigné par ailleurs cette situation. Et donc, elles vivent quoi ? Elles vivent maintenant depuis des années, elles vivent dans un pays en crise, et dans un pays où elles n'ont pas de débouchés professionnels correspondant à leur qualification. Les nouvelles générations cubaines ont été à l'université, à l'école. C'est un pays où les gens sont instruits. Mais donc, beaucoup de jeunes aujourd'hui formés partent et s'en vont. Bon, ils s'en vont. Maintenant, avec Trump, ça va sûrement être un peu différent. Mais voilà. En plus, le leadership de Fidel Castro, qui s'est exercé jusqu'en 2016, était marqué par ce que Max Weber a appelé le charisme, mais un charisme qui s'est routinisé, un charisme qui s'est usé. Et donc, j'articule ça avec ce que je vous disais du changement générationnel, qui est que, tout d'un coup, je peux vous dire, les discours de Fidel Castro, c'était un truc extraordinaire. Et puis, petit à petit, j'arrivais, et puis, à l'université, les jeunes, etc., ils en avaient marre. Ils en avaient marre d'entendre toujours la même chose. Bon, voilà. Donc, quand vous dites multifactoriel, vous voyez que c'est effectivement très large.
Que les causes sont nombreuses, oui. On parle même de pyramide sociale inversée pour le phénomène de justement, les personnes avec le plus de compétences, notamment avec un niveau d'études très élevé, qui se retrouvent, en fait, à se tourner vers le secteur du tourisme parce que les salaires sont beaucoup trop bas dans le secteur public. Et, par exemple, on a beaucoup de cas d'anciens médecins qui deviennent chauffeurs de taxi ou guide touristique, etc. Et aussi, lorsqu'on parle de Cuba, c'est souvent les pénuries alimentaires qui sont mises en avant, les pannes de courant. Concrètement, comment ça se manifeste tout ça ? Comment vivent les populations locales aujourd'hui à Cuba ?
Alors, il y a des secteurs de la population qui souffrent de pénuries alimentaires graves, qui n'ont pas de médicaments pour soigner des maladies qui, elles aussi, sont des maladies extrêmement sérieuses. Et tout cela est le fruit d'une politique économique que je n'ai pas le temps de vous résumer. Toujours est-il qu'on a donné la priorité. Alors voilà un des problèmes les plus importants et presque incompréhensibles de la politique économique. On donne la priorité au tourisme. Tout ça fait ce que vous avez appelé, ce qu'on appelle à Cuba la pyramide inversée. Ce que je vous disais auparavant, c'est-à-dire les jeunes qui ont une formation universitaire souvent très poussée, quand ils sortent, ne trouvent pas de travail, ou du moins, ils travaillent dans le secteur public où c'est très mal payé. Donc, comme vous le disiez, ils se réfugient dans des activités qui sont liées au tourisme, qui rapportent beaucoup plus, mais qui n'ont rien à voir avec leur qualification. Mais actuellement, depuis le Covid, et puis depuis les sanctions qui ont été appliquées, renforcées par Trump, les hôtels sont à moitié vides. Donc, on construit des hôtels. Ces hôtels sont à moitié vides, et ça ne donne pas, ça ne permet pas non plus même de donner des emplois nécessaires aux jeunes qui en cherchent. Donc le tourisme n'est pas vraiment une issue à la crise économique et surtout, il ne résout pas les problèmes alimentaires parce que la souveraineté alimentaire à Cuba n'est pas assurée. Alors, ajouter à ça, un dernier mot, c'est que le système politique, je disais un régime autoritaire, ne permet pas l'expression... Alors, jusqu'en 2017, Internet n'existait pratiquement pas. Maintenant, avec Internet... Bon, tout le monde réussit à se connecter, ça a changé énormément de choses à Cuba. Mais l'espace démocratique est un espace extrêmement pauvre, extrêmement limité, parfois même inexistant, et des médias qui sont donc langue de bois et avec des visions qui sont extrêmement dogmatiques, qui ajoutent donc une dimension politique négative, si vous voulez, à la crise économique. Si bien que dans la jeunesse et pour une nouvelle génération qui commence à être ouverte sur, grâce à Internet sur ce qui se passe dans le monde, il y a eu des manifestations très importantes.
Et justement, vous évoquiez tout le mouvement de manifestations massives contre le gouvernement en place, le gouvernement de Miguel Díaz-Canel, qui ont débuté le 11 juillet 2021. Comment a réagi le gouvernement au pouvoir que vous qualifiez d'autoritaire ? Et est-ce qu'il y a eu des avancées suite à ces mobilisations ?
les avancées sont très limitées. D'abord, la manifestation de 2021, c'était des manifestations très importantes. Moi, je peux vous dire qu'il n'y a jamais eu des manifestations de cette importance avant. En 1994, donc après la chute de l'URSS, il y avait une manifestation à l'époque, mais Fidel Castro était vivant. Il s'était avancé devant les manifestants sans garde du corps et au bout de deux minutes, les manifestants s'étaient dissous parce qu'il avait une légitimité. Ce que Diane Scannell et le gouvernement actuel n'a pas, il n'a en tout cas pas la même légitimité, il s'en faut même de beaucoup. Et il a des réactions qui sont absolument inadéquates. Quand il y a eu la manifestation en 2021, le président Diane Scannell est intervenu à la radio pour dire « La rue appartient aux révolutionnaires ». Et nous sommes la continuité. Ah ben, la rue appartient aux révolutionnaires, la rue elle appartient au peuple cubain. Bon, et donc cette remarque a été très mal perçue. C'est pour vous dire qu'il y a un décalage entre la perception justement des nouvelles générations et la réaction du gouvernement, qui est très souvent une réaction, j'ai dit inadaptée, c'est pour dire un peu plus que ça d'ailleurs. Il y a eu des manifestations aussi devant le ministère de la Culture de la part des artistes qui protestaient contre un décret qui voulait les obliger à soumettre au ministre les œuvres qu'ils produisaient. Donc,
oui, je disais, le mouvement San Isidro, oui.
Oui, et même des manifestations petites, hein, il y en a eu encore cette année. Alors, les premières cette année, c'est vraiment parce qu'il y a des endroits où les gens n'ont pas. Les femmes célibataires avec des enfants. Les personnes très âgées, les retraités, les jeunes sans emploi sont dans une situation dramatique. Et à côté de ça, vous avez un secteur privé qui est en plein développement, où les gens s'enrichissent, le dollar circule. Bon, la monnaie, les salaires qui sont payés en pesos, en monnaie cubaine, bon, l'écart avec le taux de change avec le dollar est considérable. Hein. Donc actuellement, on est autour de 300 pesos. Pour un dollar ou un euro, 300-320, ça va. Il y a même eu 340 il y a deux ou trois semaines. Autant vous dire que le salaire moyen, 4500 pesos par mois ou 5000 pesos, vous imaginez.
Oui, si avec par exemple une bouteille d'huile d'olive peut coûter 900 pesos, un carton de 1500 pesos. Donc voilà, quand on gagne 3000 pesos ou 4500, bon, le calcul est très vite fait que c'est très compliqué de.
Oui, ben vous avez parfaitement compris. Il y a eu une réforme monétaire compliquée qu'on n'a pas le temps d'expliquer en détail, qui a provoqué une inflation terrible. Et effectivement, maintenant, c'est un problème majeur. Si vous, je disais salaire moyen, 4500, 5000 pesos, mais les retraités, c'est 1500, 2000. Il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Résultat, il y a beaucoup de marchés noirs. Résultat aussi, il y a même maintenant des éléments de prostitution également. Et donc, il y a un secteur de la société qui s'appauvrit et qui est dans la misère. Moi, je n'avais jamais vu ça, des vieilles femmes dans les rues, même des enfants hein, qui pouvaient mendier. Il y a des coupures d'électricité qui durent deux ou trois jours parfois. Et puis à côté de ça, vous avez un secteur privé qui s'enrichit parce qu'il a accès aux dollars. Les dollars arrivent de Floride ou bien d'Espagne. Ou bien parfois d'autres pays d'Amérique latine. Ils arrivent par le biais des remessages, hein, bien sûr, mais si vous n'avez pas de famille à l'étranger, donc il y a un jeu de mots, les Cubains ont un humour terrible, ils disent souvent il faut tener fe. Voilà, avoir de la FE, avoir de la famille à l'étranger, en français, avoir la foi. Mais, donc il y a un jeu de mots pour pouvoir vivre correctement. Et c'est dramatique parce que ce n'est pas seulement l'aspect matériel, c'est que les Cubains qui sont en Floride et qui envoient des dollars, c'est ce que Fidel Castro appelait Goussan en son début un ver de terre. C'est les ennemis héréditaires. Et maintenant, on fait appel à eux pour survivre.
Bah, merci beaucoup, Jeannette Abel, d'avoir été au micro de Semillas Latinas. On aurait adoré continuer cet échange. Et pour rappel, vous êtes chercheuse associée à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine et spécialiste de Cuba.
Bonsoir à vous, bonne continuation.
Merci beaucoup pour cette interview passionnante. Et tout de suite, Ultimos Adios de La Lupe.
No puedo olvidar el último adiós. La tarde murió y el cielo lloró. Y tú, tras la lluvia que cubría mi llanto, gritaste un adiós. El último adiós. quisiera olvidar el último adiós. Mi cuerpo sintió la angustia y tembló, y tú, tras la lluvia que cubría mi llanto, gritaste un adiós, el último adiós. No puedo olvidar el último.
Vous écoutez toujours C'est Mias Latinas. Maintenant, plongez au cœur des années 60 à Cuba, où le cinéma prend aussi une forme révolutionnaire.
Cuba, janvier 1963.
Pour exprimer des idées reçues, Cuba était une île en forme de cigare version monsieur, une île en forme de crocodile version dame. Depuis la révolution cubaine, tous les Cubains sont barbus à cause du Fidel Castro. Et depuis la crise des Caraïbes, Cuba est une mine flottante.
Ceci était un extrait du film « Salut les Cubains » de la réalisatrice Agnès Varda. Dans les années 60, à Cuba, le cinéma ne se contente plus seulement d'être un art. Il devient un acte politique, une voix pour les sans-voix. Dès 1959, date de la révolution accomplie, Fidel Castro et ses compagnons comprennent très vite le pouvoir des images. C'est dans ce contexte que voit le jour, en mars 1959, l'ICAIC, l'Institut cubain de l'art et de l'industrie cinématographique, l'un des premiers grands projets culturels de la révolution. Désormais, les luttes sociales ne sont plus reléguées en arrière-plan. Elles deviennent les sujets mêmes des scénarios. Les ouvriers, les paysans, les femmes et les jeunes deviennent des protagonistes. Le cinéma de masse, mais pas populiste, vise à éduquer. Profondément didactique, il ne reste pas dénué de créativité. Le documentaire devient une arme. Santiago Alvarez, par exemple, souvent considéré comme le père du documentaire engagé à Cuba, il adopte une approche militante et expérimentale de l'art cinématographique. On ne peut pas voir ces films sans penser à Dziga-Vertov, Eisenstein ou le surréalisme. « Donnez-moi deux photos, une machine à écrire et de la musique, et je vous ferai un film », dit-il dans une interview. Son film, Now, sorti en 1965, soutient le mouvement des droits civiques aux États-Unis, un cri contre le racisme. Les caméras quittent les studios pour filmer la rue, les campagnes, les usines et surtout le peuple. C'est un cinéma de la réalité, influencé par le néo-réalisme italien, qui trouve dans la pauvreté des matériaux bruts.
Et le cinéma cubain des années 60 est donc traversé par les idéaux révolutionnaires. Mais au cœur de ce bouillonnement idéologique, la question du féminisme émerge-t-elle, elle aussi ?
Oui, dans des films comme par exemple Lucie en 68 d'Humberto Solas, qui met en scène trois femmes à trois époques différentes de l'histoire cubaine, toutes prises dans des rapports de domination qu'elles cherchent à briser. Mais il existe des voix qui, malgré le silence, résonnent longtemps, comme celle de Sara Gomez, première femme réalisatrice afro-cubaine qui continue de vibrer à travers son film De Cierta Manera, film posthume devenu œuvre phare du cinéma cubain, mais encore trop méconnu.
La falta de una experiencia concreta de trabajo habitual y de una práctica sindical y política hizo que el antiguo sector marginal de la sociedad cubana,
frente a los intereses sociales y políticos de la época, a veces podemos percibir cierta inercia y desinterés en el hombre de antigua procedencia marginal.
Oye, compadre, tú sabes que siempre entre los hombres no debe haber reserva, hace tiempo que no compartimos juntos.
Tourné dans un quartier ouvrier de la Havane, le film mêle fiction et documentaire pour raconter l'histoire d'amour entre Yolanda, une institutrice moderne et éduquée, et Mario, ouvrier issu d'un ancien bidonville reconverti. À travers leur relation, c'est tout un pays en mutation que Sara observe. Les contradictions de la révolution, les résistances culturelles, le poids du machisme et les inégalités raciales. La mise en scène est novatrice, acteur non professionnel, voix off réflective. Scène documentaire, montage épileptique, Sara brouille les frontières entre réel et fiction. Son style, proche du cinéma vérité, est résolument moderne et audacieux. Dans un style semi-documentaire, De Cierta Manera déconstruit les hiérarchies du savoir, de l'amour et du pouvoir, et interroge la difficulté d'un vrai changement culturel. le film donne à voir des personnages complexes, ni idéalisés, ni caricaturés, pris dans des tensions réelles entre l'héritage colonial, la pauvreté, le sexisme et les promesses de la Révolution.
Ça a l'air fascinant et pourtant, j'avais jamais entendu parler de Sara Gomez. Qui est-elle au juste ?
Née en 1943 à La Havane dans une famille intellectuelle afro-cubaine, Sara Gomez s'est d'abord formée à la musique et au journalisme. Et oui, avant de trouver sa voie dans le cinéma. En 1961, alors que la révolution cubaine cherche à refonder l'identité culturelle de l'île, elle entre à l'ICAIC, Institut cubain des arts et de l'industrie cinématographique, tout juste créé. Elle est l'une des rares femmes et la seule noire. Dans les années 60, Sara signe une vingtaine de courts-métrages documentaires, tous animés par un même regard, celui d'une jeune cinéaste critique, empathique, profondément engagée dans la réalité de son pays. Son cinéma est un cinéma de la marge, de l'invisible, femme noire, pauvre, exclue de la modernité révolutionnaire. Elle a ouvert une voie, encore trop peu empruntée, celle d'un cinéma qui parle non seulement au peuple, mais avec lui, avec rigueur, tendresse et courage. De cierta manera est plus qu'un film. C'est une trace politique et poétique d'un moment où Cuba rêvait de se réinventer. Sara Gomez y propose une lecture critique du processus révolutionnaire. Elle interroge ses angles morts, le patriarcat, le racisme, l'héritage colonial. Elle filme non pas pour glorifier, mais pour questionner, réparer, éveiller. Malheureusement, elle ne verra jamais l'aboutissement de son film. Elle meurt brutalement en juin 1974, à 31 ans. Aujourd'hui, alors que les questions liées à la représentation des minorités et à la place des femmes dans le cinéma occupent une place centrale dans les discussions culturelles, Sara Gomez s'impose comme une pionnière incontournable.
Merci beaucoup Pauline d'avoir mis en lumière une artiste méconnue et de nous partager ta passion pour le 7e art. C'est bientôt la fin de notre exploration des arts cubains, sous le prisme de leur relation avec le pouvoir, les idéologies et la politique en général. Mais vous vous en doutez, cet épisode ne pouvait passer sous silence la singularité de la musique cubaine et nos deux chroniqueurs et chroniqueuses Mickaël et Astrée sont sur le coup. Bonsoir Mickaël.
Bonsoir Pauline, bonsoir Annelle. Comment ne pas commencer cette chronique sur la musique afro-cubaine avec les mots de Manu Dibango lors du concert du groupe Fania All Star en 1973 au Yankee Stadium.
Eh bien, ma brava tobese, that means in Africa. Buenas noches, todo el mundo. Yo soy. Oui,
bonsoir tout le monde, je suis très heureux d'être ici ce soir avec Fania All-Star. La musique afro-cubaine, c'est ce qu'on pourrait appeler un syncrétisme. Pour sonner moins pontifiant, c'est un mélange. Attention, piège d'importance. La musique afro-cubaine ne représente ni un style musical, ni un genre. C'est en réalité un mot assez court pour définir tous les genres et rythmes qui ont émergé à Cuba et issus d'instruments venus d'Afrique. Vous allez me dire, quels sont les différents instruments venus d'Afrique et repris à Cuba notamment ? Je vais vous répondre, c'est assez difficile de dire précisément quels sont ces instruments. Cependant, on peut en désigner quelques-uns. Mais avant de les citer, restez bien jusqu'à la fin, un peu d'histoire. Le commerce triangulaire, ça vous dit sûrement quelque chose. Échoués sur les côtes de Cuba et d'Hispaniola, aujourd'hui Haïti et République Dominicaine, les colons européens ont importé des milliers d'êtres humains issus d'Afrique sur ces îles pour les réduire en esclavage. Et pour Cuba, l'arrivée des esclaves s'étale principalement au cours du XVIIIe siècle, venus principalement du peuple Yoruba qui vivait dans l'actuel Nigeria, mais également par exemple des peuples Tonga ou Batake. Ils arrivèrent à faire vivre leur culture au sein des cabildos, endroits où ils se réunissaient. Là, les esclaves pouvaient exprimer leur culture mais aussi leur religion, dont émergera également la Santería, un autre syncrétisme. Ces cabildos ont permis l'émergence de rythmes issus d'instruments européens ressemblant à ceux que les esclaves utilisaient dans leurs terres africaines. Et c'est ici que nous retrouvons l'origine de notre syncrétisme. Ces instruments, ce sont par exemple différents types de tambours, des tambourins, des nkenbi qui sont des petites maracas, des petits claviers, etc. Dans les années 50 et 60 à Cuba, c'est l'apothéose. La musique connaît un véritable succès, poussé notamment par le tourisme états-unien séduit par l'exotisme de cette île. Les concours radiophoniques et les orchestres locaux se multiplient. À Cuba, chaque coin de rue est une scène de concert. Les rythmes afro-cubains connaissent un véritable épanouissement, et ce, dans toutes les strates sociales. Ainsi, se bousculent des rythmes tels que le boléro, le cha-cha-cha, la guaracha, le mambo, la pachanga, la rumba, le son ou encore la troa. Erreur de penser que tous les mélanges se font dans un seul sens. Avez-vous déjà entendu parler de la salsa africaine ? Rapprochée par la révolution et les idées tiers-mondistes, la musique cubaine est arrivée sur les côtes atlantiques africaines et fut reprise sur place. Nous retrouvons le fameux Manu Dibango, star de la musique afro-cubaine au Cameroun et en Europe. Les rythmes afro-cubains, déjà issus d'un mélange séculaire, se mélangeront géographiquement avec d'autres genres. De là, on peut écouter du jazz afro-cubain ou encore du rock afro-cubain, mais sûrement le plus connu de toute cette cuisine géographique, commerciale et musicale, les rythmes afro-cubains se sont mélangés pour faire naître la salsa, notamment à New York. Nous écoutons la reine de la salsa, Celia Cruz, qui déjà dans sa jeunesse était une star à Cuba, son pays natal. Les genres musicaux issus de mélanges au temps de l'esclavage ont marqué comme Cuba toute l'Amérique, à l'exemple du tango, et c'est pour moi une super transition pour vous parler de l'épisode de Semilla Latina sur l'Argentine qui en parle du tango. Pour conclure cette chronique, faisons vivre ces rythmes qui nous font danser pour partager et échanger, ce qui précisément marque leur origine au milieu de souffrances inhumaines.
Que rico! Merci Michael. Comme vous avez pu l'entendre dans cette chronique, Cuba est une terre d'effusion musicale traversée de puissantes racines africaines. Mais alors, qu'est-ce qu'être musicien ou musicienne à Cuba en 2025? Comment continue-t-on à faire vibrer ces tambours quand tout autour vacille? Pour en parler, j'ai contacté mon amie Élise, alias El Batif, DJ et voyageuse musicale. Elle fait partie de la team Barrios Latinos, un média et collectif qui met en avant les cultures d'Amérique latine. Élise a traversé Cuba cette année dans le cadre d'une transatlantique artistique et elle m'a parlé d'un monde à deux vitesses. La scène musicale est fragmentée. Elle y a trouvé des soirées entre particuliers, des collectifs qui organisent, bricolent des événements et des DJ et musiciens-musiciennes qui doivent beaucoup reposer sur des réseaux d'entraide internationaux. Il y a très peu de matériel, peu de lieux et surtout un État qui contrôle tout. La scène officielle, les textes, le statut d'artiste et la diffusion. Alors, peut-on continuer à danser quand la lumière s'éteint ? À Cuba, la musique continue de vibrer et une génération réinvente les codes. Elle mixe rumba et trap, reggaeton et expérimentation électronique. Elle y parle d'exil, de la crise, mais aussi de la joie de rester et de créer. Historiquement, à Cuba, la musique a toujours été politique. Sous Batista comme sous Castro, elle a été une arme, un exutoire ou un outil de propagande. On pense par exemple à la Nueva Trova des années 70 avec Silvio Rodríguez ou Pablo Milanés qui mêlait poésie, critique sociale et soutien à la révolution. On les entend derrière. Aujourd'hui, beaucoup fuient les mots trop directs. Certains artistes sont surveillés, interdits et parfois emprisonnés, comme Denis Solis dont nous ont parlé Paloma et Manon plus tôt dans l'émission. Finalement, la musique à Cuba, ce n'est pas qu'un art, c'est un espace de respiration collective. Dans les marges de l'État, elle garde mémoire et espoir. Et c'est ici qu'on peut mobiliser le sociologue Aníbal Quijano. Il parlait de colonialité du pouvoir. C'est cette façon dont les logiques coloniales perdurent dans les sociétés post-coloniales. Centralisation autoritaire, marginalisation des voix des afro-descendants et dépendance à l'extérieur. Alors à Cuba, la musique est à la fois un outil de résistance, de survie économique et un espace d'expression politique dans les marges.
Y si hacemos concierto como Abamón y con todo, ya, quitamos el cover, llenamos la bombilla de velita, hacemos un concierto a gusto.
Et comme l'a remarqué Elise, les Cubains sont un des peuples les plus débrouillards.
Concierto en Abamón, ¿viste?
Avec des machines rafistolées et des soirées sans électricité, la fête continue. Et elle est intense, débrouillarde et profondément vivante. Si vous avez envie de vous plonger dans le voyage musical d'Elise à Cuba, retrouvez sa playlist sur le compte YouTube de Barrios Latinos.
Merci beaucoup Astrid d'avoir ancré cette fin d'épisode dans le présent. Et merci Michael pour cette première partie sur la musique afro-cubaine.
C'est Millas Latinos, une émission Radio Campus Paris, un samedi soir par mois à 20h sur le 93.9 FM.
Chers auditeurices, nous arrivons au terme de cet épisode consacré aux arts à Cuba et à leurs relations complexes et diverses avec la politique.
tantôt un vecteur d'émancipation, un outil de propagande, une arme de résistance ou un exutoire. À Cuba, l'art est polyvalent mais toujours vibrant.
Merci de nous avoir écoutés en direct sur le 93.9. Pour réécouter notre épisode, retrouvez-nous sur Arte Radio, Deezer, Apple Podcasts, Spotify et sur le site de Radio Campus Paris.
Merci à nos invités, Colline Perron et Jeannette Abel, pour leur expertise. Merci aux chroniqueuses et coproductrices de l'émission, Astrée, Paloma, Sylvie et Manon. Merci enfin à Mickaël qui nous a aussi assuré une belle réalisation.
Et c'était Pauline et Anaël à la présentation. On se retrouve le mois prochain pour le dernier épisode de la saison.
Hasta luego!